Nous revînmes à la première pièce aveugle où le verset disait « Super tronos wiginti quatuor ». Elle avait quatre ouvertures. L'une donnait sur la pièce Y avec fenêtre sur l'octogone. L'autre donnait sur la pièce P qui continuait le long de la façade extérieure, la série Hispania. Une autre vers la tour desservait la pièce E que nous venions de parcourir. Puis, il y avait un mur plein et enfin une ouverture qui desservait une seconde pièce aveugle avec l'initiale U. La pièce S était celle du miroir et heureusement que ce dernier se trouvait sur la paroi immédiatement à ma droite, sans quoi j'eusse été de nouveau pris de peur. À bien observer le plan, je me rendis compte de la singularité de cette pièce. Comme chaque pièce aveugle des trois autres tours, elle aurait dû desservir la salle heptagonale centrale. Si elle ne le faisait pas, l'entrée dans l'heptagone aurait dû s'ouvrir dans la pièce adjacente, la U. Celle-ci pourtant, qui desservait par une ouverture une pièce T avec fenêtre sur l'octogone intérieur et par l'autre communiquait avec la pièce S, avait ses trois autres murs pleins et occupés par des armoires. En jetant un regard circulaire, nous relevâmes ce qui désormais était évident, même en lisant notre plan. Pour des raisons de logique outre que de rigoureuse symétrie, cette tour devait avoir sa salle heptagonale, mais elle n'existait pas. « Elle n'existe pas, » dis-je. « Ce n'est pas qu'elle n'existe pas. Si elle n'existait pas, les autres pièces seraient plus grandes, tandis qu'elles sont peu ou prou du même format que celles des autres côtés. Elle existe, mais on n'y accède pas. Elle est murée ? Probablement. Et voilà le Finis Africae, voilà l'endroit que hantaient les petits curieux qui sont morts. Elle est murée, mais il n'est pas dit qu'il n'y ait pas de passage. Et même ce passage existe à coup sûr, et Venantius l'avait trouvé, où on avait eu la description par Adelme, et ce dernier par Béranger. Relisons ces notes. Il tira de sa coule le parchemin de Venantius et lut « La main sur l'idole opère sur le premier et sur le septième des quatre. » Il regarda autour de lui. « Mais bien sûr, l'idolum, c'est l'image du miroir. Venantius pensait en grec et dans cette langue, plus encore que dans la nôtre. Eidolon est aussi bien l'image que spectre, et le miroir nous renvoie notre image déformée que nous-mêmes, l'autre nuit, nous avons prise pour un spectre. Mais que peuvent être alors les quatre supraspeculum ? Quelque chose sur la surface réfléchissante ? Mais alors nous devrions nous placer d'un certain point de vue, de façon à apercevoir quelque chose qui se reflète dans le miroir et qui correspond à la description donnée par Venantius. Nous nous déplaçâmes dans toutes les directions, mais sans résultat. Au-delà de nos images, le miroir renvoyait les contours confus du reste de la salle, à grand-peine éclairés par notre lampe. « Alors, méditait Guillaume, par supraspeculum, il pourrait vouloir entendre... au-delà du miroir. Il importerait donc que d'abord nous allions au-delà, parce que ce miroir est sûrement une porte. Le miroir était plus grand qu'un homme normal, encastré dans le mur à l'aide d'un robuste cadre de chêne. Nous le touchâmes de mille manières, nous cherchâmes à glisser nos doigts, nos ongles entre le cadre et le mur, mais le miroir tenait ferme, comme s'il faisait partie du mur, pierre dans la pierre. Et si ce n'est pas au-delà, ce pourrait être... « Super speculum », murmurait Guillaume, et se disant, il levait le bras et se haussait sur la pointe des pieds et faisait courir sa main sur le bord supérieur du cadre sans trouver autre chose que de la poussière. « D'ailleurs, réfléchissait mélancoliquement Guillaume, si même là derrière il y avait une pièce, le livre que nous cherchons et que d'autres cherchent n'est plus dans cette pièce parce qu'on l'a emporté loin d'ici, d'abord Venantius et puis, qui sait où, Béranger. » Mais peut-être Béranger l'a-t-il rapporté ici ? Non. Ce soir-là, nous étions dans la bibliothèque et tout porte à croire qu'il est mort peu après le vol, cette nuit-là même dans les balnéas. Autrement, nous l'aurions revu le matin suivant. Peu importe. Pour le moment, nous nous sommes assurés du lieu où se trouve le Finis Africae et nous avons presque tous les éléments pour compléter à la perfection le plan de la bibliothèque. Tu dois admettre que bien des mystères du labyrinthe se sont désormais éclaircis. Tous, dirais-je, sauf un. Je crois que je tirerai davantage parti d'une relecture attentive du manuscrit de Venantius que d'autres inspections. Tu as vu que le mystère du labyrinthe, nous l'avons mieux découvert du dehors que du dedans. Ce soir, en face de nos images déformées, nous ne viendrons pas à bout du problème. Et enfin, la lumière de notre lampe décline. Viens, mettons noir sur blanc les autres indications qui nous servent pour établir le plan définitif. Nous parcourûmes d'autres salles, toujours en enregistrant nos découvertes sur mon plan. Nous passâmes dans des salles uniquement consacrées à des écrits de mathématiques et d'astronomie, d'autres avec des ouvrages en caractère araméen qu'aucun de nous deux ne connaissait, d'autres en caractère plus inconnu encore, peut-être des textes de l'Inde. Nous nous déplacions entre deux suites imbriquées qui disaient « Judaea » et « Aegyptus ». En somme, pour ne pas ennuyer le lecteur avec la chronique de notre déchiffrement, lorsque plus tard nous mîmes définitivement le plan au point, nous fûmes convaincus que la bibliothèque était vraiment constituée et distribuée selon l'image de l'orbe terraqué. Au septentrion, nous trouvâmes Anglia et Germanie, qui le long du mur occidental se rattachaient à Gallia, pour ensuite engendrer à l'extrême occident Hibernia et vers le mur méridional Roma, paradis de classique latin, et Hispania. Puis venaient au midi les Leones, l'Aegyptus, qui vers l'Orient devenait Judaea et Fons Adae. Entre Orient et Septentrion, le long du mur, Achaïa. Une bonne synecdoque, selon l'expression de Guillaume, pour indiquer la Grèce, et de fait, dans ces quatre pièces, il y avait une grande abondance de poètes et philosophes de l'Antiquité païenne. Le mode de lecture était bizarre. Tantôt on procédait dans une seule direction, tantôt on allait à rebours, tantôt circulairement. Souvent, comme je l'ai dit, une lettre servait à composer deux mots différents. Et dans ces cas-là, la pièce avait une armoire réservée à un sujet et une à un autre. Mais il ne fallait évidemment pas chercher une règle de trois dans cette disposition. Il s'agissait d'un pur artifice mnémonique pour permettre au bibliothécaire de retrouver un ouvrage. Dire d'un livre qu'il se trouvait en quarta, Achaiae, signifiait qu'il était dans la quatrième pièce à compter de celle où apparaissait le A initial, et quant à la façon de la repérer, on supposait que le bibliothécaire savait par cœur le parcours, qu'il fût droit ou circulaire. Par exemple, Achaia était distribué sur quatre pièces disposées en carré, ce qui veut dire que le premier A était aussi le dernier, chose que d'ailleurs nous aussi nous avions apprise en peu de temps. De même que nous avions aussitôt appris le jeu des barrages. Par exemple, en venant d'Orient, aucune des pièces de Achaïa ne desservait les pièces suivantes. À ce point, le labyrinthe prenait fin, et pour rejoindre la tour septentrionale, il fallait passer par les trois autres. Mais naturellement, les bibliothécaires savaient bien, en entrant par le Fons, que pour aller, admettons en Anglia, ils devaient traverser Aegyptus, Hispania, Gallia et Germanie. Avec ces belles découvertes et d'autres encore, se termina notre fructueuse exploration de la bibliothèque. Mais avant d'annoncer que, satisfaits, nous nous apprêtions à en sortir, pour prendre part à d'autres événements que je raconterai d'ici peu, je dois confesser que, précisément, tandis que nous parcourions les salles de la tour méridionale, dite Léonès, il advint que mon maître stationna dans une pièce riche d'ouvrages arabes avec de curieux dessins d'optique. Et comme ce soir-là nous disposions non seulement d'une mais de deux lampes, je me dirigeais par curiosité vers la pièce attenante pour me rendre compte que la sagacité et la prudence des législateurs de la bibliothèque avaient rassemblé le long d'un de ces murs des livres qui ne pouvaient certes être mis entre les mains de n'importe qui, car chacun à sa façon, il traitait de différentes maladies du corps et de l'esprit, ouvrages presque tous de savants infidèles. Et mon œil tomba sur un livre pas très grand, orné d'enluminure fort différente, heureusement, du thème, des fleurs, des vrilles, des animaux par couple, quelques herbes médicinales. Son titre était « Speculum Amoris » de Fra Maxime de Bologne, et il rapportait des citations de maints autres ouvrages, tous sur la maladie d'amour. Comme le lecteur comprendra, il n'en fallait pas davantage pour réveiller ma curiosité malade. Mieux, le seul titre suffit à enflammer de rechef mon esprit, qui depuis le matin s'était apaisé en l'excitant de nouveau avec l'image de la jeune fille. Puisque la journée durant j'avais ravalé mes pensées matinales en me disant qu'elles n'étaient pas dignes d'un novice sain et équilibré, et puisque d'autre part les événements de ce jour avaient été suffisamment riches et intenses pour me distraire, mes appétits s'étaient calmés, si bien que je croyais m'être désormais libéré de ce qui n'avait été rien d'autre qu'une inquiétude passagère. Il suffit en revanche de la vue de ce livre pour me découvrir plus malade d'amour que je ne croyais. J'appris par la suite que, à lire des livres de médecine, on se persuade toujours d'éprouver les douleurs dont ils parlent. Ce fut ainsi que, justement, la lecture de ces pages, lorgnée en toute hâte par peur que Guillaume n'entrât dans la pièce et ne me demandât sur quoi je me penchais si doctement, me persuada que je souffrais bien de cette maladie dont les symptômes étaient décrits avec tant de splendeur que si, d'un côté, je m'inquiétais de me trouver malade, de l'autre, je me réjouissais de voir dépeinte avec une telle vivacité ma situation. Convaincu peu à peu que, si donc j'étais infirme, mon infirmité était pour ainsi dire normale, étant donné que tant d'autres en avaient souffert mêmement. Ainsi, mon émotion s'épandit sur les pages de Ibn Hazm, qui définit l'amour comme une maladie rebelle ayant son antidote en soi-même, tel que celui qui est malade ne veut pas en guérir, et qui en est atteint ne désire pas en réchapper, et Dieu sait comme ce n'était pas vrai. Je me rendis compte pourquoi le matin j'étais si excité par tout ce que je voyais, parce qu'il paraît que l'amour entre à travers les yeux, comme dit aussi Basile d'Ancyre, et symptôme impossible à confondre, qui est pris d'un tel mal, manifeste une excessive gaieté, tandis qu'il désire dans le même temps rester à l'écart et chérit la solitude, comme je l'avais fait ce matin-là. Cependant que d'autres phénomènes l'accompagnent, tels l'inquiétude violente et la stupeur qui ôtent la parole. J'eus peur en lisant que chez l'amant sincère, auquel se dérobe la vue de l'objet aimé, ne peut que survivre un état de consomption allant souvent jusqu'à lui faire prendre le lit, et parfois le mal subjugue le cerveau, on perd l'esprit et on délire. D'évidence, je n'étais pas encore parvenu à cet état, puisque j'avais parfaitement travaillé à l'exploration de la bibliothèque. Mais je lus avec appréhension que si le mal empire, la mort peut en être l'issue, et je me demandais si la joie que la jeune fille me donnait à penser à elle valait ce sacrifice suprême du corps, mis à part toute stricte considération sur la santé de l'âme. J'appris encore par une phrase de sainte Hildegarde que cette humeur mélancolique ressentie au cours de la journée et que j'attribuais à un doux sentiment de peine causé par l'absence de la jeune fille ressemble dangereusement au sentiment qu'éprouve celui qui se détourne de l'état harmonieux et parfait que l'homme ressent au paradis et que cette mélancolie, nigra et amara, est produite par le souffle du serpent et par la suggestion du diable. Idée partagée aussi par des infidèles d'égale sagesse car me tombèrent sous les yeux les lignes attribuées à Abu Bakr Muhammad ibn Zakaria ar-Razi, qui dans un Liber Continens identifie la mélancolie amoureuse à la lycanthropie, maladie poussant celui qui en est frappé à se comporter comme un loup. D'abord, les amants apparaissent changés dans leur aspect extérieur, leur vue s'affaiblit, leurs yeux deviennent caves et perdent leurs larmes, leur langue lentement se dessèche et se couvre de pustules, leur corps entier brûle et ils souffrent sans arrêt de la soif. Et c'est alors qu'ils passent leur journée allongés, la face contre le sol, sur leur visage et sur leur tibia apparaissent des signes semblables à des morsures de chien, et enfin, ils errent la nuit dans les cimetières. Je n'eus pour finir plus aucun doute sur la gravité de mon état quand je lus des citations du très grand Avicenne, où l'amour se voit défini comme une songerie lancinante de nature mélancolique qui naît à force de penser et de repenser aux traits, aux gestes ou aux habitudes d'une personne du sexe opposé, comme Avicenne avait représenté en touches vives et fidèles mon propre cas. Il ne naît pas comme maladie, mais devient maladie quand, n'étant pas satisfait, il devient pensée obsessionnelle. Et comment se faisait-il que j'éprouvais cette obsession, moi qui pourtant, Dieu me pardonne, m'étais bel et bien satisfait ? Ou peut-être ce qui avait eu lieu la nuit précédente n'était point satisfaction d'amour ? Mais alors, comment satisfait-on ce mal, dont la conséquence est un mouvement continu des paupières, une respiration irrégulière, tantôt on rit, tantôt on pleure, et le pouls bat la chamade, et en vérité, le mien battait fort et ma respiration se brisait tandis que je lisais ces lignes. Avicenne conseillait une méthode infaillible déjà proposée par Galien pour découvrir de qui on est amoureux, tenir le poignet du souffrant et prononcer moult noms de personnes de l'autre sexe jusqu'à ce qu'on perçoive à quel nom le rythme du pouls s'accélère. Et moi, je craignais que soudain mon maître n'entrât et ne me saisît le poignet pour épier dans la pulsation de mes veines mon secret, ce dont j'aurais eu grande honte. Hélas, Avicenne suggérait, comme remède, d'unir les deux amants en mariage et le mal guérirait. C'était bien vraiment un infidèle, encore que sagace, parce qu'il ne prenait pas en compte la condition d'un novice bénédictin, condamné donc à ne jamais guérir, ou mieux, s'étant voué, par choix personnel ou par choix avisé de ses parents, à ne jamais tomber malade. Heureusement, Avicenne, même sans penser à l'ordre clunisien, considérait le cas d'amants à jamais désunis et conseillait comme cure radicale les bains chauds. Béranger voulait-il par hasard guérir de son mal d'amour pour le défunt Adelme ? Mais pouvait-on souffrir du mal d'amour pour un être de son propre sexe, ou n'était-ce point là que bestiale luxure ? N'était-elle pas également bestiale la luxure de ma nuit passée ? Non, certes, me disais-je aussitôt. Elle était très douce, et sitôt après... Tu te trompes, Atso. Ce fut pure illusion du diable. Elle était d'une grande bestialité, et si tu as péché en étant une bête, tu pèches encore plus maintenant à ne pas vouloir t'en rendre compte. Mais ensuite, je lus aussi que, toujours selon Avicenne, il y avait d'autres moyens. Par exemple, recourir à l'assistance de femmes vieilles et expertes qui passeraient leur temps à dénigrer l'aimé, et il paraît que les vieilles femmes sont plus expertes que les hommes à ce genre de besogne. C'était peut-être la bonne solution, mais des vieilles à l'abbaye, je ne pouvais en trouver ni des jeunes en vérité, et j'aurais donc dû demander à quelques moines de me dire du mal de la fille, mais à qui ? Et puis, un moine pouvait-il connaître aussi bien les femmes que les connaissait une femme vieille et potinière ? La dernière solution suggérée par le sarrasin était franchement effrontée, car elle prétendait qu'on fît unir l'amant malheureux avec un grand nombre de belles esclaves, chose fort inconvenante pour un moine. Enfin, me disais-je, comment peut guérir du mal d'amour un jeune moine ? N'y a-t-il vraiment point de salut pour lui ? Peut-être me fallait-il recourir à ses vrins et à ses herbes. De fait, je tombais sur un passage d'Arnaud de Villeneuve, auteur que j'avais déjà entendu citer par Guillaume avec grande considération, qui faisait naître le mal d'amour d'une abondance d'humeur et de pneuma, c'est-à-dire quand l'organisme se trouve en excès d'humidité et de chaleur, étant donné que le sang, producteur de la semence générative, augmentant à l'excès, provoque un excès de semence, une complexio venerea et un désir intense d'union entre hommes et femmes. Il est une vertu estimative située dans la partie dorsale du ventricule moyen de l'encéphale. De quoi s'agit-il, me demandai-je, dont le but est de percevoir les intentions non sensibles qui sont dans les objets sensibles captés par les sens. Et quand le désir pour l'objet perçu par les sens se fait trop fort, voilà que la faculté estimative s'en trouve bouleversée et ne se nourrit que du fantôme de la personne aimée. Alors se vérifie une inflammation de l'âme tout entière et du corps, dans un va-et-vient de tristesse et de joie. Car la chaleur, qui dans les moments de désespoir descend dans les parties les plus profondes du corps et glace l'épiderme, dans les moments de joie, monte à la surface en enflammant le visage. La cure suggérée par Arnaud consistait à perdre toute confiance et l'espoir de rejoindre l'objet aimé, de façon que la pensée s'en détournât. « Mais alors je suis guéri, ou en voie de guérison, me dis-je, car j'ai peu d'espoir, sinon aucun, de revoir l'objet de mes pensées. » Et si je le voyais, de le rejoindre, et si je le rejoignais, de le posséder de nouveau, et si je le repossédais, de le retenir près de moi, aussi bien en raison de mon état monacal que des devoirs qui me sont imposés par le rang de ma famille. Je suis sauvé, me dis-je. Je fermai le fascicule et repris contenance, juste au moment où Guillaume entrait dans la pièce. Je me remis en chemin avec lui, à travers le labyrinthe au parcours dès lors dévoilé, comme je l'ai déjà raconté, et pour l'heure, oubliait mon obsession. Comme on le verra, il me serait donné de la retrouver peu de temps après, mais en des circonstances, hélas, bien différentes.